Regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean et nous commençons maintenant notre étude dans le chapitre 18 où il s'agit ici de la trahison du Seigneur Jésus. Ce n'était pas une surprise pour lui parce que c'est pour cette fin qu'il est venu dans ce monde afin de donner sa vie. Donc en réalité, je crois que c'est Judas qui l'a trahi et il était arrêté. On doit dire que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui s'est livré et que son Père l'a livré entre les mains des hommes méchants afin d'accomplir sa volonté dans la mort du Seigneur Jésus. Il n'est pas venu dans ce monde pour servir d'exemple de la manière de vivre et puis monter au ciel, mais il est venu donner sa vie en rançon pour ceux que le Père lui a donné depuis l'éternité. Donc nous arrivons à ce moment dans l'histoire de la vie de notre Seigneur Jésus sur la terre où il devait être arrêté et livré selon la volonté de son Père. Donc dans le verset 1, et mon texte c'est du verset 1 jusqu'au verset 12, nous avons cette parole inspirée afin de nous enseigner de la manière que tout cela s'est déroulé. Donc, verset 1 dit « Lorsqu'il eut dit ces choses », alors tout ce que nous venons de voir depuis le chapitre 14 jusqu'à maintenant, même la prière sacerdotale du Seigneur dans le chapitre 17, il était en train de préparer ses disciples pour ce qui devait se passer dans sa mort, mais aussi on voit à travers sa prière pour ses disciples la manière que Christ a fait face à la croix. Il n'a pas hésité, il n'y avait rien sur ce chemin qui l'a découragé ou bien l'effrayé. Il était le Fils de Dieu, étant dans la chair, il est venu pour accomplir tout ce que la loi exigeait et la justice de son Père exigeait. Alors, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. C'est intéressant que l'histoire de ce monde a commencé dans un jardin, le jardin d'Éden, avec la chute d'Adam. Et nous voyons cette histoire de rédemption maintenant qui arrive à un autre jardin où ce dernier Adam, ce second Adam que Dieu a envoyé dans ce monde qui devait représenter son peuple, se trouve maintenant dans ce jardin de Gethsémané. Donc deux jardins dans la Bible, deux représentants, ceux qui étaient de la race d'Adam et tout ce que Adam a pu donner à sa race, c'était la condamnation. Maintenant, nous voyons celui qui représente le dernier Adam. Et c'est sur lui que tout le salut de sa race, de ce que le Père lui a donné, se pose, étant le représentant. Alors, c'est écrit que Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. C'était un lieu où le Seigneur se rassemblait avec ses disciples pour prier, mais aussi pour les enseigner concernant les choses qui les concernaient. Quel meilleur maître que d'avoir le Seigneur Jésus lui-même ouvrir les Écritures et annoncer ce qui concerne sa personne et qui concerne son œuvre pour laquelle il est venu. Alors, c'est écrit que Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Ils sont venus l'arrêter, pensant que c'était par la force qu'il devait prendre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous devons nous rappeler, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe et le chapitre 53, qu'il était comme un agneau ou une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Donc toute cette force n'était même pas nécessaire, parce qu'il faut dire que Christ est Dieu dans la chair, donc toute la puissance résidait avec le Seigneur Jésus. Mais ces hommes, ne voyant qu'un homme qui devait arrêter, alors ils sont venus avec toute la force nécessaire pour l'arrêter. Mais voilà le verset 4, c'est pourquoi j'ai dit, nous parlons de la trahison du Seigneur Jésus, mais en fait, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui s'est livré à eux, sachant que son heure est venue, cette heure qui était ordonnée depuis l'éternité. Maintenant, le moment est arrivé, et encore sans hésitation, le Seigneur, avec un grand désir, voulant s'offrir lui-même afin d'accomplir la justice de son Père à l'égard de ce peuple que le Père lui a donné, tout cela, il savait d'avance. C'est écrit verset 4, Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver. Comment il savait tout ce qu'il devait arriver? Parce que, premièrement, il est Dieu. Il n'a pas cessé d'être Dieu lorsqu'il est venu sur cette terre en tant qu'homme. Il a pris chair comme un homme, mais toujours il était Dieu. Donc, il connaissait même les pensées des hommes. Mais, en deuxième lieu, il savait tout ce qui lui devait arriver parce que, depuis l'éternité, c'est lui qui est la parole. Et il était avec son Père et dans le conseil éternel de Dieu, le conseil de la grâce de Dieu. Ce plan du salut, de rédemption, a été déjà arrêté depuis l'éternité. Donc il est venu maintenant pour achever tout ce qui était ordonné avant les temps éternels. Christ n'est pas venu dans ce monde pour essayer de sauver le plus grand nombre de pécheurs que possible. Non, il est venu pour sauver exactement le nombre que le Père lui a donné. Et la manière que ce salut devait être accompli, c'était à travers sa mort. Donc tout cela, il savait d'avance. Alors, notez bien, ici, qui prend le devant ici? Ce n'est pas les hommes. C'est comme dans le salut. Le salut ne dépend pas des hommes. Ce n'est pas l'homme qui prend le devant. Mais c'est toujours Christ qui est à la tête de tout ce qui se passe. C'est pourquoi nous lisons Jésus sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Lui-même est allé faire face à ces hommes rebelles. Et leur dit, qui cherchez-vous? Ce n'est pas que notre Seigneur ignorait qui il cherchait, il savait que c'était lui, mais il voulait tirer de leur cœur et de leur pensée celui qu'il cherchait afin qu'il soit coupable, que eux-mêmes, ils confessent leur mission. Alors le verset 5 dit, ils lui répondirent. Notez le nom qu'ils utilisaient ici pour parlait de Christ, Jésus de Nazareth. C'était un nom scandaleux pour ceux de son époque, parce que il se présentait comme Dieu dans la chair, pourtant pour eux, ce n'était qu'un simple homme, ce Jésus de Nazareth. Alors, Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Donc, nous voyons finalement que Judas s'expose. Il a été parmi les disciples du Seigneur Jésus. Christ a déjà dit que c'est lui qui avait choisi ses disciples, mais il leur a dit, comme dans sa prière sacerdotale, que un parmi eux était le fils de perdition. Nous avons vu ça dans Jean 17 et le verset 12, où il est en train de prier à son père. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie. Donc encore dans cette trahison du Seigneur Jésus, ce n'est pas que finalement Judas a eu le dessus sur notre Seigneur Jésus-Christ comme s'il est, il a pu maintenant le vaincre finalement, non. Mais il est en train de suivre le rôle dans cette affaire qui lui a été donnée par Dieu lui-même. Ça, c'est un point que les gens trouvent difficile de savoir ou ils viennent de croire aujourd'hui que oui, Dieu est souverain non seulement sur le bien, mais sur le mal. Même le diable est le diable de Dieu. Le diable ne peut pas faire que ce que Dieu lui-même lui donne l'autorité de faire. Et c'est vrai aussi, même parmi les plus méchants des hommes, Paul a écrit cela même au sujet de Pharaon, dans Romains chapitre 9, qu'il a suscité Pharaon, c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir afin de manifester en lui qui était une vase de colère, un vase de colère afin de manifester en lui son pouvoir tout en le détruisant. Donc rien n'échappe à la souveraineté de Dieu. Donc cet acte de Judas, comme c'était écrit ici dans Jean 17 et le verset 12, afin que l'écriture fût accomplie, c'était déjà déterminé d'avance ce rôle que Judas devait joué dans l'arrestation du Seigneur et sa trahison. Alors, c'est écrit, quand Christ a dit, c'est moi et Judas qui le livrait, était avec eux. Dans le verset 6, c'est écrit, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ce qui est peut-être caché dans cette expression ici, c'est moi, c'est le fait que le mot, le terme que le Seigneur Jésus a utilisé, c'était en fait je suis. Je suis qui je suis, comme Dieu a envoyé Moïse vers les enfants d'Israël. Et quand Moïse a demandé, mais qui, quand il demande qui m'a envoyé, quel nom est-ce que je dois dire? Et Dieu a dit, dites-leur, je suis. Et c'est le même terme ici, quoi qu'ils sont venus pour arrêter un certain Jésus de Nazareth, ils ignoraient qu'en fait, il était Jéhovah dans la chair. Donc, peut-être une meilleure manière de lire cela dans le verset 5, au lieu de « c'est moi », il a dit « je suis ». Pas « je ne suis », mais « je suis ». Et l'effet de cela, quand il a répété, c'est qu'ils reculèrent et tombèrent par terre. Cela démontre que la simple parole du Seigneur Jésus peut faire tomber les pires des pécheurs et rebelles que aucun homme à sa puissance ne peut faire quoi que ce soit tant que cela ne lui a été donné par Christ lui-même. C'est vrai, dans la condamnation, aucun ne peut empêcher le Seigneur Jésus, qui est le juge de tous, de les condamner et les envoyer à l'enfer. Et c'est vrai, dans le salut, ça ne dépend pas de la volonté de l'homme. Si c'était ordonné à ce que Christ sauve les pécheurs, donc c'est selon sa puissance qu'il sauve. Et personne ne peut l'empêcher ou lui dire non. C'est ça le problème aujourd'hui avec le Jésus populaire qui est prêché. C'est que les hommes pensent que le pouvoir est entre leurs mains, mais c'est le contraire. Le pouvoir, c'est toujours entre les mains du Seigneur Jésus, de sauver qui il veut et condamner qui il veut. Rappelons-nous que c'est comme ça que Christ a commencé sa prière sacerdotale dans Jean 17 et le verset 2. « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. » Donc nous voyons ici un sauveur, un Seigneur, Dieu de la chair qui détient tout pouvoir. Et même si ceux-là sont venus l'arrêter et que Judas, avec ce complot, les a dirigés pour qu'ils arrivent à ce point-là, c'est certain qu'il n'aurait pu prendre notre Seigneur Jésus si cela n'était pas selon sa volonté. Parce que avec la simple déclaration de qui il est, ils se sont reculés et ont tombé par terre. Imaginez, maintenant, dans le verset 7, il leur a demandé de nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Et ils ont répété la même chose, « Jésus de Nazareth. » Ils ne pouvaient pas dire, « Nous sommes venus arrêter celui qui est Dieu dans la chair. » Non, ils ne le connaissaient pas ainsi. Tout ce qu'ils savaient de lui, c'est qu'il était Jésus de Nazareth, selon les dires des gens. Alors c'est ainsi, dans le verset 8, Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Là encore, on peut lire ça, « Je vous ai dit que je suis. » Et Christ aurait pu arrêter leur complot là et sortir, mais ce n'est pas pour cela qu'il est venu dans le monde. Je disais, il se livrait lui-même. C'est selon la volonté de son Père qu'il devait se livrer entre leurs mains. Donc, quand il dit, je vous ai dit que c'est moi, je vous ai dit, je suis. C'est donc, c'est moi, je suis ce que vous, celui que vous cherchez. Laissez aller ceux-ci. Là encore, dans le verset 8, nous voyons une bonne explication de la substitution. Prendre la place d'eux. C'est que Christ est venu pour être le substitut, celui qui devait, comme le dernier Adam, représenter son peuple devant le Père, ou satisfaire à la justice de Dieu à leur égard, à leur place. Donc, c'est pourquoi il dit, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Cette phrase, laissez aller, c'est que Christ se tient à la place devant Dieu dans la condamnation pour ceux que le Père lui a donné, ceux pour qui il venait de prier, ceux dans Jean 17, où Christ a dit dans le verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Christ, ici, n'était pas en train de prier pour ceux qui sont venus l'arrêter. Et certainement pour Judas, même si pendant 3 ans et demi, Judas a trompé les autres disciples par sa marche, il est sorti aller prêcher avec les autres. Il a annoncé le message de Christ comme s'il faisait part. C'est comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Ils disent, non, non, nous prêchons Christ, mais ils ne sont pas attachés à ce Christ-ci. Ils ont un Jésus de leur imagination, mais pas le Christ, pas le souverain, pas celui qui sauve qui il veut et qui condamne qui il veut. Et la preuve, c'est dans leur prédication, parce qu'ils ne sont pas en train de prêcher un Christ qui a les hommes entre ses mains. Ils prêchent un Jésus qui détient le pouvoir, où les hommes détiennent le pouvoir sur lui. Un Jésus entre leurs mains. Donc, c'est très précis ici dans Jean 18 et le verset 8. Si, donc, c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il est en train de déclarer la volonté de Dieu que ceux qui étaient à lui devaient laisser aller. Cela veut dire aller en paix, sans subir la condamnation que Christ devait subir à leur place. C'est pourquoi il est venu. Encore, nous voyons comment le Seigneur Jésus s'est livré lui-même pour ceux que le Père lui a donné. C'est une belle déclaration de la substitution du Seigneur Jésus. Il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que ceux qui se glorifient, ils se glorifient dans le Seigneur. Et si nous sommes parmi ceux qui l'a libéré et ceux pour qui il a pris la place, ce n'est pas à cause de quelques raisons ou bien en nous-mêmes. Non, toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Alors, dans le verset 9, il dit cela, notez bien, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Nous avons vu ça plusieurs fois à travers le ministère du Seigneur Jésus-Christ, commençant par Jean chapitre 6 et le verset 39. Donc, voilà des versets que beaucoup ignorent. Ils racontent l'histoire de la trahison du Seigneur Jésus et ils prêchent comme si c'est un moment pitoyable, que voilà, Christ est venu faire du bien, mais en fin de compte, ils sont venus l'arrêter et l'ont tué. Ils ne voient pas ces versets parmi les versets qui nous montrent que tout ce qui se passe selon ce qui est écrit, afin, comme c'est écrit là, afin que s'accomplisse la parole. Quel sauveur merveilleux! Et ici, surtout dans Jean 6, c'est le verset 39, il a dit ça, « Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc, quand vous entendez des prédicateurs prêcher que, voilà, Christ est venu donner sa vie, voulant sauver tous les hommes, mais en fin de compte, tous ne sont pas sauvés, ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. Ça, c'est un Jésus idolâtre, un Jésus qui fait partie des idées des hommes. C'est ce que c'est une idole, une idée, ouais, de la pensée, mais pas selon ce qui est écrit. Voilà pourquoi il nous faut l'Esprit de Dieu de nous délivrer de nos fausses idées, nos fausses pensées, et d'être attachés au véritable Christ. Et c'est pourquoi nous devons le prêcher avec clarté et sans fatigue, parce que dans le monde, il y a beaucoup d'ignorance, comme nous le savons. Les gens prétendent connaître le Seigneur Jésus, mais ils ne connaissent pas ce Seigneur Jésus qui a toutes choses entre ses mains. Alors, encore, afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, je n'ai n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. » Dans Jean chapitre 10 et le verset 28, nous avons vu la même phrase répétée par notre Seigneur Jésus. En parlant de ses brebis, pour qui il est venu, il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Donc, la sécurité éternelle de ceux pour qui Christ est mort réside dans son œuvre. Il y a beaucoup de gens qui disent, « Non, mais il faut faire attention, il faut toujours œuvrer, il faut toujours poursuivre cette vie éternelle, autrement on perdra ce que Dieu aurait voulu donner. » Pauvre de Dieu, un Dieu qui veut faire certaines choses, mais qui n'arrive pas à faire ce qu'il ordonne, ça ce n'est pas Dieu. Pourtant, c'est le petit Dieu que les gens adorent aujourd'hui. Ils s'imaginent en fin de compte que Dieu a fait tout ce qu'il peut, mais maintenant le reste dépend de nous. Donc il le dit bien, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Donc le fait que les 11 disciples étaient sauvés, mais Judas était condamné, cela était selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi il est appelé le fils de perdition. Une fois fils de perdition, on ne peut jamais être fils de Dieu. Et cela depuis l'éternité. Il y a des boucs et puis il y a les brebis. On ne peut pas prendre un bouc et faire de ce bouc une brebis. Ou par contre, une brebis ne peut pas devenir un bouc. C'est selon ce que Dieu lui-même a donné. Et donc, dans le verset 29 de Jean 10, nous lisons pareil. « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et puis, aussi, comme nous avons vu dans Jean 17 et le verset 12, il a dit, « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. » C'est vrai, quand ils sont venus prendre le Seigneur Jésus comme leur substitut, ils ont fui. Mais après sa résurrection, le Seigneur est allé les rassembler de nouveau. Personne ne peut s'égarer définitivement du Seigneur Jésus parce que il a donné sa vie, il a versé son sang pour le salut. Et c'est le sang que Dieu le Père regarde comme leur justice et a accompli tout pour le salut. Et donc ici, dans le verset 10, ça nous montre aussi que même avec ses meilleures intentions, comme Simon-Pierre, il pensait pouvoir défendre le Seigneur. Ici, nous voyons encore qu'aucun de nous ne peut faire quoi que ce soit pour l'accomplissement du salut. Même avec nos meilleures intentions, c'est comme l'apôtre Paul a écrit au sujet de ses frères juifs dans Romains chapitre 10. Il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Même Pierre ici, dans le jardin, manifeste un zèle pour Dieu, mais sans l'intelligence, sans savoir que c'est pas son épée qui devait défendre le sauveur. C'est le contraire, c'était le sauveur qui était là pour sa défense. Et aucun homme ne peut mettre sa main à l'œuvre du salut de Jésus pour l'aider, ou bien pour le défendre. Non, il n'a pas besoin de notre défense. Alors même en cela, Pierre devait apprendre cette leçon. Il était zélé, mais il fallait que Christ subisse ce jugement à l'égard de Pierre à sa place. Mais Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, verset 10, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Mais regardez la réponse du Seigneur. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Et c'est ainsi la cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisirent alors de Jésus et le lièrent. Avant cela, nous voyons une image d'une brebis qui devait être, comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 53, livrée. On prenait la brebis et on la liait à l'autel. Et c'est ainsi que nous voyons notre Seigneur Jésus ici lié. Mais c'est selon la volonté de Dieu. Ces hommes, ce qu'il a été, pensaient être en train d'achever ou bien d'accomplir leur volonté. Pourtant, en tout ce qu'ils faisaient, ils n'ont pas pu faire plus ou moins que ce qui était la volonté de son Père. C'est pourquoi Pierre, le même Pierre, après tout ce qui s'est passé, étant maintenant enseigné par l'Esprit pour savoir que tout ce qui se passait était de Dieu, il a dit le jour de Pentecôte dans son message, dans Actes 2, et le verset 23, cet homme, noté, livré. Donc, ici, Christ était livré entre les mains de ces hommes impies. Mais notez ce qui est écrit dans le verset 23. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc tout en faisant leur volonté, ils accomplissaient la volonté de Dieu. Et encore dans Actes chapitre 4. Et le verset 27 et 28, c'est écrit en effet contre ton saint serviteur, Jésus. Ils l'ont adressé comme ce Jésus de Nazareth, comme une moquerie. Mais ceux qui le connaissent comme le saint serviteur, Jésus. C'est avec respect, c'est avec révérence. Nous parlons de notre Seigneur Jésus. Je sais que les hommes aiment appeler des hommes révérends, mais il n'y a qu'un seul révérend, c'est le Seigneur Jésus. Nous ne devons pas prendre sur nous-mêmes ce titre, jamais. Donc nous servons celui qui est le saint serviteur Jésus. Mais ici, c'est écrit en effet contre ton saint serviteur Jésus. Je dois vous dire, vous le savez, que ce monde est contre. Ne sommes pas contre le petit Jésus populaire, qui fait la volonté de l'homme selon ce qu'il veut. Non, ils sont contre le souverain Seigneur Jésus. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint. Il est le oint de Dieu, c'est ça la signification du titre. Christ, Jésus, c'est son nom, car il sauvera son peuple de ses péchés. Mais Christ, c'est son titre, le oint de Dieu, oint pour être le substitut, oint pour être celui qui devait accomplir tout à l'égard de ce peuple que le Père lui a donné. Et c'est contre lui que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Notez verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Alors cela doit nous rassurer. Rassurer tout en livrant cette histoire de la trahison et l'arrestation du Seigneur Jésus. S'il s'est livré lui-même, il s'est livré pour les pécheurs tels que nous sommes, que Dieu a ordonné au salut depuis l'éternité. Et par la grâce et la puissance de Dieu, tout s'est accompli exactement comme il fallait. Et pour cela, nous rendons grâce et gloire à notre Seigneur Jésus. Amen.